afin de pouvoir édifier ton peuple. Bénis le Seigneur, et c'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Alléluia.
Amen.
Bénissons-tu, Seigneur. Tu es notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Ton nom est mystérieux. Tu te révèles dans les différentes circonstances de nos vies. Et tu nous permets de découvrir qui tu es. Tu es Seigneur, le Seigneur, le Roi qui règne. Ton royaume est un royaume éternel, dont le trône est un trône de justice et d'équité. Tu es celui qui fait accomplir sur la terre ta volonté comme elle est arrêtée dans les cieux. Car assurément, Seigneur, ce n'est pas notre volonté qui est importante, mais c'est la tienne. Ce sont tes plans, ce sont tes projets pour nos vies. Toi qui es le pourvoyeur, le Dieu qui nous accorde chaque jour la subsistance nécessaire. Tu nous accordes la manne, tu nous accordes différentes ressources, Seigneur, afin de tenir chaque jour que tu as créé. Tu es celui également qui, selon ta miséricorde, sait pardonner celui qui se répand et qui revient à toi. Tu pardonnes nos péchés, nos iniquités, Seigneur. Parce que le trône sur lequel tu es assis est un trône de grâce et c'est là où se trouve ta miséricorde. C'est vrai que tu nous soumets à différentes épreuves pour fortifier notre foi et nous faire avancer, mais tu nous préserves toujours du malin et de toutes les tentations. Et pour cela, Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour toute l'activité spirituelle, invisible que tu opères dans nos vies. Et les choses que nos yeux ne voient pas, Seigneur, mais qui se passent. Tu es vraiment à l'œuvre et nous pouvons être reconnaissants encore ce matin de savoir que nous avons du prix à tes yeux. C'est vrai, Seigneur, nous le disons souvent dans nos prières, tu es le Dieu qui est fidèle. Mais combien de fois ne sommes-nous pas infidèles? Combien de fois ne nous éloignons-nous pas de toi? Mais toi, tu es toujours là, Seigneur, pour nous accueillir. Tu ne rejettes pas celui qui revient à toi. C'est dans ta grande miséricorde que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit béni, toi qui appartiens le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Toi qui étais, toi qui es parmi nous ce matin, et toi qui reviens bientôt. Est-ce que tu nous instruis encore, et que ta parole ce matin trouve encore écho dans nos cœurs, et soit gravée sur la table de nos cœurs, et que notre esprit capte, comprenne, saisisse la vérité de ta parole. Que ton nom seul soit élevé en ces lieux, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons ainsi prié et nous pouvons dire Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que son nom soit béni. Alors nous continuons à partager sa parole, parce que c'est elle qui est la vie. Nous avons été créés pour vivre selon Dieu. C'est pourquoi il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, Dieu est bon. Et que son nom soit glorifié. Les choses qui nous font sortir des limites de Dieu. Nous continuons notre enseignement. Parce que j'insiste encore là-dessus, on ne peut pas marcher Dieu si on ne comprend pas comment il fonctionne. Plus encore, on ne peut pas servir Dieu si on ne comprend pas quelles sont ses exigences. Au préalable, il faut savoir, comme dans toute société, hein, qui est ton employeur. Quelle est la vision de la boîte quelles sont les valeurs de la boîte, quels sont les principes, quels sont les objectifs de la boîte. On ne peut pas se retrouver dans une boîte et ne pas avoir ces informations, c'est pas possible. Il faut savoir. Et je vous l'ai toujours dit, j'insisterai là-dessus, tout est là-dedans. Tout est là-dedans. La vision, les objectifs, l'éthique, les valeurs de Dieu pour nous. C'est là-dedans. Marcher avec Dieu, comment on fait? Nous avons déjà vu beaucoup de choses. Je vais encore faire le rappel, c'est important. Rappeler. Nous avons vu que nous sortons des limites de Dieu lorsque nous croyons au mensonge du diable. Quand on a cru au mensonge du diable, c'est terminé. Nous avons vu que lorsqu'on cède à la tentation, parce qu'on n'empêchera pas la tentation d'être là. La tentation sera toujours là. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il y aura la tentation sur la terre. Vous aurez beau prier que la tentation soit éradiquée de la surface de la terre, ça ne pourra pas être éradiqué tant que le diable est sur la terre. La tentation sera toujours là. Mais notre responsabilité, c'est de ne pas céder à la tentation. Le problème n'est pas la tentation, c'est de ne pas céder. Nous avons vu qu'en s'attachant à la chair, lorsque nous cédons au désir de notre chair, la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Dieu est esprit, donc si je m'attache à la chair, je sors des limites de Dieu. Nous avons vu le manque de reconnaissance de sa source, parce que quelquefois, nous avons l'impression que ce que nous avons, nous le méritons. Et même, on arrive même à des niveaux où on fait du chantage à Dieu, pensant que nous sommes. Ce que nous avons, c'est nous. Non, ce que nous avons, ce que nous possédons, ce que nous sommes, ça vient de Dieu. Il n'y a pas à faire du chantage. Il n'y a pas à intimider Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Il est la source. Donc le manque de reconnaissance de ce que nous sommes, de ce que nous possédons, de ce que nous avons, ça va nous faire sortir. Pourquoi? Parce qu'après on va tomber dans l'orgueil. Et on va croire qu'on se suffit. Et dès l'instant où un homme qui a été sauvé par grâce pense qu'il se suffit et qu'il ne reconnaisse pas l'Éternel dans toutes ses voies, il va avoir des problèmes comme Nebuchadnezzar. Parce que le Seigneur ne nous oblige pas, mais nous avons le devoir moral d'être reconnaissants. L'ingratitude n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi j'ai encore pris l'exemple la semaine passée sur les lépreux. Jésus leur a pas dit, allez, quand vous serez guéris, revenez me voir. Il leur a dit, allez. Mais quand le lépreux est revenu, Jésus pose la question, où sont les autres? Donc, nous avons le devoir moral, la conscience. Il y a des choses où vous n'avez pas besoin qu'on vous oblige à les faire. Quand on t'a fait du bien, il faut savoir dire merci. Et ça, c'est le minimum. C'est pourquoi ce minimum-là, Dieu, il y tient. Parce que c'est par là qu'il est glorifié. La Bible déclare, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. On a dit toutes. Donc si tu reconnais que ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais là, ça vient de Dieu, alors il faut être reconnaissant. Quand tu voles la gloire de Dieu, tu vas être ennemi de Dieu. On ne vole pas la gloire de Dieu parce que le manque de reconnaissance est un moyen de voler la gloire de Dieu. Parce qu'on ne veut pas lui donner ce qu'il revient de droit. Donc Dieu doit recevoir la gloire, c'est un Dieu de gloire. Et quand tu n'es pas reconnaissant, tu lui voles la gloire. Et si tu voles la gloire, tu auras des problèmes. Nous avons parlé de l'impatience. Lorsque nous ne savons pas attendre, nous sortirons des limites que Dieu a fixées. Nous avons vu ça avec l'offrande de Saül. Parce que Samuel tardait à venir et Saül a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il n'était pas sacrificateur, il était roi. Et lorsque Saül a fait un office qui ne lui revenait pas de droit par manque de patience, il a été rejeté par Dieu. Parce qu'il n'a pas su attendre. Et je vous disais, je le répète encore une fois, beaucoup de fois, nous sortons des limites de Dieu parce que nous ne savons pas attendre. Nous vivons dans une époque où les gens ne sont plus patients. Même dans notre relation avec Dieu, on veut des résultats tout de suite. On est de façon indirecte formaté par rapport à la société actuelle. La société actuelle est une société qui ne veut plus attendre. La patience n'est plus une vertu dans le monde d'aujourd'hui. Il faut faire vite, vite les choses. Alors que Dieu te dit, il y a des moments, il faut aussi attendre. Et nous, on n'en veut pas. Et quand on ne veut pas attendre, à ce moment-là, nous ouvrons notre esprit à plusieurs options. Parce qu'après, ça tourne là-dedans. Puisque tu ne veux pas attendre, tu vas chercher d'autres solutions. Tu vas chercher des solutions, soi-disant, vite fait, miracle. manque de patience, tu vas sortir. Après, tu diras quoi à Dieu? Parce que ça tardait, parce que Saül, il a dit à Samuel, parce que le temps était déjà passé. Mais même si le temps était passé, ce n'était pas lui de le faire. Donc, le manque de patience, frères et sœurs, ne pas savoir attendre, va vous faire sortir. On n'a pas à se justifier. Le péché ne se justifie pas. Le péché se reconnaît, ça se confesse, ça s'abandonne. On ne justifie pas un péché. Un péché reste un péché. Tu n'as pas su attendre, tu n'as pas su attendre. Point barre. Mais tu ne vas pas donner des raisons à Dieu. Tu sais, c'est parce qu'il y avait ceci. Dieu n'a pas besoin de tout ce discours. Tu as désobéi. Point barre. Nous avons parlé de la désobéissance, justement, de l'infidélité à Dieu à travers, justement, le prophète, le jeune prophète. Dieu lui avait donné une direction. Dieu l'avait mis un cadre. Mais il est sorti de ce cadre. Il n'a pas été fidèle. Il a désobéi. Et on a parlé des enfants d'Israël qui n'ont pas respecté l'alliance de Dieu. Et nous continuons encore, à travers la parole de Dieu, à découvrir l'importance de rester dans les limites. Tous ces passages de la parole de Dieu doivent nous aider à comprendre que le sujet est sérieux. Parce que si c'est arrivé à eux là, c'est pas nous qui serons préservés. Parce que les enfants d'Israël étaient têtus dans le désert, mais ça n'a pas empêché leurs fils là, les descendants et tout ça là, de faire pire qu'eux. Donc ce n'est pas une question de dire non, c'était pour les autres. Parce que les autres là, s'ils ont échoué là, si ça a été dur pour eux, c'est pas pour nous, ça sera facile hein. Donc on a tout intérêt à veiller et à faire attention, parce que c'est pas du genre, ça n'arrive qu'aux autres hein. Ah non, on doit tout faire pour ne pas répéter l'histoire. Alors nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 10, le verset 6, pour la suite des passages de la parole de Dieu qui nous interpelle encore une fois sur la nécessité de rester dans les limites et les choses qui nous font sortir des limites de Dieu. Juges, chapitre 10, verset 6. Juges, chapitre 10, verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab. Vous voyez, on énumère, hein, la liste est longue quand même. Les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là, et pendant 18 ans, s'il vous plaît, hein, 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galaad, les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Hier soir, je revoyais mes notes. Et ce matin, quand je reméditais là-dessus, je me suis posé une seule question. D'ailleurs, je l'ai posée au Seigneur. Je dis, mais comment se fait-il qu'on puisse s'éloigner si facilement de toi? Je lui ai posé la question ce matin, parce que quand je lis encore la vie des enfants d'Israël, j'ai dit, mais les hommes s'éloignent facilement de toi. Hein? C'est comme si aujourd'hui, tel que nous sommes là, demain nous nous retrouvons tous à aller adorer tous les dieux de l'Inde. C'est la même chose, là je contextualise tout simplement. On se retrouve tous à invoquer les dieux des Indiens, là. Tous. Comment on peut arriver à un tel niveau de prostitution spirituelle alors qu'on a, entre guillemets, connu le vrai Dieu et qu'il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Comment on peut expliquer que ce peuple-là qui a une histoire avec Dieu, sa source est même Dieu. Le fait même qu'il soit à Canaan, c'est un miracle de Dieu. Mais comment un tel peuple avec l'histoire, sa propre histoire, où il y a le Dieu unique qui s'est révélé en Égypte, qui a conduit les Égyptiens, mais comment le peuple peut-il arriver à un niveau où ils vont, on dit, ils servir? Ce n'est pas qu'on les a obligés, ils servirent, c'est-à-dire qu'eux-mêmes. Ils servirent qui? Baal, Astarté, les dieux, on dit les dieux, tout est au pluriel. Vous vous rendez compte le nombre de divinités que le peuple a commencé à adorer? Quelle prostitution! Les dieux. À la rigueur, si on avait dit, ils ont servi Baal. Regardez, les dieux de Syrie. Dieu se sait combien il y avait de dieux, hein. C'est comme on cite des pays, hein. Là on parle de l'Inde, là j'ai pris des exemples de l'Inde. Rien qu'en Inde, là, vous savez le nombre de dieux qu'il y a, rien qu'en Inde, là. Rien qu'en Inde. Vous prenez les dieux de l'Inde, prenez les dieux en Égypte, prenez nos dieux là, de la nuit africaine, là. Toute cette fusion là. On dit les dieux. Alors je parlais au Seigneur pour dire, mais je ne comprends pas comment se fait-il que des personnes qui t'ont servi se détourne si facilement de toi pour servir vraiment d'autres dieux. Et ce que nous voulons voir ce matin par rapport au point, comment ce qui nous fait sortir des limites de Dieu, c'est lorsque nous cessons de craindre Dieu. Lorsque tu cesses de craindre le Seigneur, tu vas sortir. Question, c'est quoi la crainte de Dieu? Parce qu'en cessant de craindre Dieu, ils se sont tournés ailleurs. Ils ont arrêté de craindre le Seigneur. C'est pas fini, on va lire encore 2 Rois 17. 2 Rois 17. Verset 6. 2 Rois chapitre 17 verset 6. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. C'est aberrant ça. Ils vont craindre d'autres dieux que l'Éternel. Pourquoi? La Bible dit, verset 8, ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent, écoutez bien verset 9, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, comme si Dieu ne voyait pas leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Regardez encore l'abomination. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent, s'il vous plaît, des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquels ils irritèrent l'Éternel. Verset 12, ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. L'Éternel fait avertir Juda, Israël, par tous ses prophètes, par tous les voyants, leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyé par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point. Et ils raidirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. C'est dramatique, mais riche en enseignements. Comment on peut arriver à un tel niveau? Quand vous lisez votre Bible, là, vous ne vous posez pas les questions. Comment un peuple choisi, élu, qui a vu Dieu, c'est-à-dire que son histoire, c'est-à-dire que quand on parle de son histoire, Dieu est omniprésent. Ce n'est pas comme nous, nos histoires de famille. Eux, leur histoire, le fondement même d'Israël, c'est Dieu. Ce qui fait que même le conflit actuel a pour base, une base biblique, Dieu. Alors, comment on peut en arriver là? Je vous assure, je me suis posé la question. Parce que la façon dont on a décrit, si à la rigueur on dit en péchant, bon, ils ont commencé à se faire du mal entre eux en passant. Mais arriver à une telle prostitution spirituelle, c'est grave. L'homme, c'est vrai, on n'est pas parfait, on cherche à devenir. Mais arriver à un tel niveau, je me suis posé vraiment des questions ce matin. En cessant de craindre Dieu, quand la crainte de Dieu n'est plus là. Alors à des moments, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que tu procéderais peut-être par la crainte, la peur, tu nous terroriserais? Est-ce que même en nous terrorisant, est-ce que nous allons te servir? Parce qu'Israël a été terrorisé par Dieu, hein, quand même. Ils ont vu des choses qui les ont terrorisés dans le désert. Mais ça ne les a pas empêchés de continuer à être... Parce que pour une personne normale, avec tout ce qu'ils ont vu en Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, colonne de nuée de feu. Ils ont vu, comme je l'ai dit dimanche passé, leurs frères ont été enterrés vivants, la terre s'est ouverte. Ils sont rentrés vivants, enterrés. Ils ont vu d'un rocher l'eau sortir. Mais avec ça là, ils n'ont pas servi Dieu. Comment vous pouvez expliquer à quel degré le cœur de l'homme est? C'est-à-dire que même si Dieu décidait de nous terroriser comme il a fait, ça n'emmènerait pas les gens à le servir, à moins que Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de faire de nous des machines, des robots. Mais tant qu'il y aura le libre arbitre, malgré les miracles, le côté qui terrifie, le cœur ne sera pas pour Dieu, parce que c'est une question de cœur. Parce que si ce n'était que ça, là, Israël devait être droit comme un i dans le désert. Parce que moi, je ne sais pas si j'avais expérimenté ce qu'eux ont vécu là. Je ne sais pas comment je serais. Hein. Déjà, les petites choses que nous expérimentons aujourd'hui, certaines apparitions, certaines présences, on est un peu terrifié. Mais attendez, vous voyez la terre s'ouvrir, des gens enterrés vivants sous vos yeux. Vous avez vu, c'est traumatisant. Ça traumatise. Vous vous promenez dans le désert et puis il y a une colonne qui vous accompagne. Vous voyez le surnaturel, vous voyez. Ce n'est pas un phénomène naturel, vous voyez. La nuit, colonne de feu, vous voyez. Ce n'est pas en songe, ce n'est pas en vision. Ils ont vu. Mais malgré ça, ils ne sont pas restés droits comme des i. Comment vous pouvez expliquer qu'on peut arriver à un tel niveau? Nous ne sommes pas à l'abri. La chose qu'il faut traiter, c'est notre cœur. Parce que c'est le cœur. C'est pas autre chose. C'est le cœur qui adore Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que c'est du cœur de l'homme qu'il sort. Toutes les sources de la vie, c'est le cœur. Parce que Dieu peut te terrifier dans ta chair, mais est-ce que ton cœur est pour Dieu? On peut avoir peur, hein, pendant une semaine. Mais le problème, c'est le cœur. Je vous assure, je me suis remis en question en demandant à Dieu, mais Seigneur, comment ils ont fait? Parce que sincèrement, quand je vois la façon dont on a nommé leur prostitution, j'ai eu peur. Comment on peut en arriver là? Alors, je me suis posé certaines questions aussi. Donc, quand on cesse de craindre Dieu, donc j'ai commencé à me dire, certainement, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais là encore, qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Parce qu'on serait tenté de le dire, conclure, est-ce qu'ils ne connaissaient pas Dieu? Mais est-ce que Israël en Égypte n'a pas connu Dieu alors qu'ils ont vu? Dieu s'est révélé à eux. Dieu est venu lui-même vers eux. Ils ont su quand même qu'il était, qu'il est. Donc, est-ce que c'est une excuse de dire que si Israël s'est prostitué, c'est parce qu'il ne connaissait pas Dieu? Cessez de craindre le Seigneur. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, tout part de qui il est. Tout part de qui il est. Vous vous rendez compte que c'est un rond-point. On revient toujours à qui il est. Parce que si je sais qui il est, je n'irai pas me prostituer ailleurs. Si je sais vraiment qui il est. Hein. Parce que si je sais que lui ne joue pas là, je ne veux pas me prostituer. Mais si je me dis que bon, c'était pour un temps. Comme ce que Dieu a fait en Égypte, il n'a pas répété ça tout le temps. Peut-être les gens disent, ah oui, on a entendu des histoires. Parce que cette génération-là n'était pas en Égypte. Ce qu'ils ont entendu, c'était des histoires. Ils n'étaient pas là. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas dit peut-être que bon, ben, oui, c'est vrai, on a entendu, mais... Parce qu'il y a certaines personnes, tant qu'elles n'ont pas vu, elles ne feront pas. Vous aurez beau leur expliquer, Dieu ceci, Dieu cela, il a fait ceci dans la vie d'un tel, tant qu'elles n'ont pas vu, elles ne croiront pas. Et donc, certaines personnes sont obligées de Dieu est obligé de les ramener à l'ordre en véritablement se révélant à ces personnes-là, en venant lui-même, personnellement, créer une situation dans leur vie. Ils vont se rendre compte que Dieu est. Il est le je suis là. Il est. Parce que s'il ne le fait pas là, même si on vous a dit, ça va être difficile. C'est pourquoi je reviens sur le il est. Qui est-il? Parce que comment je peux aller adorer un autre Dieu alors que si je sais qu'il est le seul Dieu, je ne peux pas adorer un autre Dieu. Si je vais adorer tel que ce qu'ils ont fait, ça veut donc dire que je le mets au même niveau que les autres. Or, en adorant les autres dieux, ils ont déjà transgressé le premier commandement. Et ça, c'est universel. Ce n'est pas au nom de la loi, machin, Jésus. Non, non. Le commandement de Dieu, là. Ça, c'est universel. Hein. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Jusqu'à aujourd'hui, c'est actuel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas des idoles en pierre taillée, etc. Tu ne te prosterneras pas. C'est actuel. Cessez de craindre Dieu. Ça va vous faire sortir des limites. Hein. Parce que vous allez vivre sans Dieu. Et quand on vit sans Dieu, on va commencer à l'imaginer. On va fabriquer son Dieu. Puisqu'il n'y a pas le vrai Dieu. On le fabrique. Il y a des gens qui ont fabriqué des dieux. Ils ont fait certains animaux. Ils ont dit, bon, on va l'adorer. Mais non, c'est lui qui est Dieu. Regardez, il reste ce qu'il a fait. Ils sont sortis d'Égypte. Ouais, le cœur de l'homme. Revenons. C'est pourquoi trouvons l'enseignement sur la vie d'Israël. Israël sort d'Égypte. Le Dieu sans visage qui s'est révélé à Moïse. Ils ont vu les œuvres de ce Dieu-là. Mais après que Moïse soit monté sur la montagne, qu'est-ce qu'ils ont dit à Aaron? Il dit, fais-nous un Dieu. Ils ont fait le veau, là. Ils ont dit, c'est lui. Ils ont commencé à l'adorer. C'est lui qui nous a fait sortir. Ils n'ont pas vu Dieu. Mais ils vont donner à ce veau-là ce qui revient à Dieu. Il dit que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Regardez le cœur de l'homme. Ils ont voulu représenter Dieu et ils ont attribué à ce qu'eux-mêmes ils ont fait, là. Et ils l'ont appelé Dieu. Vous voyez notre cœur. C'est sérieux, hein, cette histoire-là. Cessez de craindre Dieu quand tu arrêtes, quand tu ne crains plus Dieu. Quand tu ne crains plus Dieu, tu vas sortir. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est la manière de vivre. C'est la manière de vivre. Comment vous pourrez bien vivre si vous ne craignez pas Dieu? Ah, frère, c'est sérieux, hein, cette partie de mon enseignement, parce que c'est lourd à porter. Parce que nous sommes tous concernés. Cessez de craindre Dieu. Ça va nous coûter, frère. Il est. Il est. Ils ont bâti des autels. Ils ont fait des choses en secret contre l'Éternel, leur Dieu. Comment on peut en arriver à une telle folie? C'est comme aujourd'hui, vous dites, moi, vos choses de là, je m'en fous. Hein. Je repars faire ma vie. Et, mais si tu dis ça, là, est-ce que vraiment tu l'avais connu? C'est pourquoi nous devons chaque jour nous examiner, frère. Qu'est-ce qui nous maintient dans la foi? C'est le mouvement ou bien c'est la révélation qu'on a reçue? Parce que si c'est le mouvement, à un moment donné, ça va s'arrêter. Hein? Ta propre réalité te rattrapera. Or, la révélation, même si tu tombes demain, tu vas te relever parce que tu sais là où Dieu t'a pris. Mais le mouvement, or dans nos assemblées, il y a beaucoup de personnes qui sont là par le mouvement. Le mouvement. Le mouvement, ça va s'arrêter un jour. Et après, des gens vont commettre des grandes abominations. On va dire, oh mais lui, il connaissait Dieu. Est-ce que vraiment la personne connaissait Dieu? Regardez ces gens-là, différemment de nous, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Bon, nous aujourd'hui, on a le Saint-Esprit. Donc théoriquement, nous, on ne devrait pas répéter cette histoire-là parce que Dieu, il va mettre l'antivirus parce qu'il a vu ce qui s'est passé avec les gens. Maintenant, dans la nouvelle naissance, Dieu met un antivirus qui est le Saint-Esprit. Le rôle de l'antivirus, c'est de vous signaler le virus. S'il y a une intrusion, avant que ça fasse de ravage, l'antivirus a détecté et l'antivirus vous pose la question. On fait quoi? On supprime ou on met en quarantaine? L'antivirus te pose la question. Tu fais quoi? Tu supprimes ou tu mets en quarantaine? En quarantaine, si tu gardes pour un temps. Mais ça reste là. Tu supprimes, tu termines avec ça. Le Saint-Esprit ne nous oblige pas. Le Saint-Esprit nous interpelle de plusieurs façons. Après, c'est à nous de prendre des décisions. Tu suis la parole de Dieu ou tu ne la suis pas. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, aujourd'hui, en vérité, pour ceux qui sont réellement nés de Dieu, Dieu a pris des dispositions pour qu'on n'en arrive pas à ce niveau-là. Il nous a donné donc son esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là, comme je vous le dis souvent, à vous faire parler en langue. Il est là aussi, c'est l'antivirus. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, je vous assure même aujourd'hui, on ferait les mêmes choses. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, il y a quand même un frein. Je me vois mal aujourd'hui d'aller invoquer les dieux en Inde. Peut-être que je ferai autre chose, mais pas ça. Mais eux, ils sont allés invoquer les dieux des autres. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu peux avoir une vie de rébellion. Tu dis, ah, moi, je ne vais plus prier. Moi, je ne vais plus fréquenter l'assemblée. Tu restes pour toi à la maison. Tu te laisses aller au plaisir de la vie, oui. Mais dire que tu vas commencer à aller faire les adorations, les idoles, le parfum, faire les sacrifices. Tu vas aller en Inde et tout, commencer à faire tous ces dieux-là, tes dieux. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit quand même. Donc, la crainte de Dieu. Et Dieu merci parce qu'en nous donnant son esprit, le Saint-Esprit, il est là pour nous confirmer qui il est. Il confirme. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans l'homme. C'est Dieu lui-même. Donc vous voyez que lorsqu'ils ont cessé de craindre le Seigneur, ils se sont prostitués, mais de façon sérieuse. Et nous allons voir un autre élément dans la parole de Dieu, dans 2 Samuel 11. Mais je vous invite à méditer cette semaine sur ce que je viens de dire. Hein. Comment on peut s'éloigner de Dieu et à se prostituer à ce niveau-là. C'est quand même étonnant. 2 Samuel 1, verset 2 Samuel chapitre 11, verset 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Je vais m'arrêter là parce que vous connaissez l'histoire. Mais ce que je veux insister, c'est à travers cette histoire sur la question de nos choix. Lorsque nous choisissons de faire notre volonté, nous sortirons de celle de Dieu, c'est clair, parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas la nôtre. David a fait un choix de rester à Jérusalem. Il ne devait pas rester à Jérusalem. Au temps où les rois s'en vont en guerre. David était roi. Et en plus, il incarnait pour Israël la période de la guerre d'Israël. Et David a choisi de rester. La Bible dit David resta. C'est un choix. Qu'est-ce qui a motivé son choix? Dieu seul sait. Pourquoi David n'est pas parti en guerre? Pourquoi il a préféré envoyer les autres? Lui, il s'est dit peut-être que j'ai trop travaillé, je vais me reposer. Peut-être. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de David. Mais le choix de David lui a coûté. Parce que le choix, en voulant faire sa volonté, il n'était plus dans le cadre que Dieu avait fixé pour lui. Dieu l'attendait au son de bataille. Dieu n'attendait pas David à Jérusalem. C'était pas à Jérusalem qu'il avait son rendez-vous avec Dieu. Et comme il n'était pas à la place qu'il faut, au moment qu'il faut, il s'est retrouvé dans les problèmes. Parce que vous n'allez pas me dire que c'est seulement ce jour-là que Bathsheba est venu s'installer devant la fenêtre du roi. Hein? Donc il y a eu le déménagement seulement ce jour-là. Mais ils habitaient là depuis. Comment expliquer que c'est seulement ce jour-là? La Bible ne dit pas qu'il y a eu le déménagement. Hein? Sinon, on aurait cru, bon, ils viennent d'aménager, ils ont déménagé, c'est seulement le soir, ils ont terminé ça. Non. On suppose, en lisant cette histoire-là, qu'ils ont toujours habité en face de lui. Mais pourquoi ce jour-là? Et on suppose également que cette femme-là, elle avait l'habitude de se laver. On ne va pas dire qu'elle a déplacé sa douche spécialement ce jour-là devant la. Non, elle avait l'habitude de se laver et à ces heures-là. Mais pourquoi il y a eu cette histoire? Parce qu'il n'était pas à la place qu'il fallait et au moment qu'il fallait. Dieu ne l'attendait pas là. Et voilà ce qui est arrivé, est arrivé. Parce qu'il a choisi de rester. Parce que s'il était en guerre, à l'heure de la guerre, il ne serait pas à l'heure du bain de l'autre. Et comme il n'était pas à l'heure de la guerre, il s'est retrouvé à l'heure du bain. Et à l'heure du bain de l'autre, il s'est retrouvé dans les problèmes. Parce que ce n'était pas sa place. Dieu n'était pas là. Il a fait le mauvais choix. Quelles que soient les raisons qui ont poussé David à rester à Jérusalem, mais la Bible nous donne des précisions qui nous révèlent qu'il n'était pas à sa place. Parce que la Bible, quand elle met l'insistance en disant qu'au temps où les rois sont en guerre ou bien sont en campagne, David resta, il envoie les autres, ça nous parle, ça nous parle. Dieu nous donne une information importante qu'on ne peut pas négliger. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le péché. Le péché. Et nous voyons dans 1 Chronique 21, verset 1er. Eh bien oui. Et 2 Samuel 24, 1 Chronique 21, verset 1er. C'est l'histoire du dénombrement. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il excita David. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux au roi mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab. Et Joab partit et parcourut Israël, puis il revient à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en un sensé. On s'arrête là parce que par la suite, il y a les fléaux, le jugement de Dieu. J'aimerais parler encore de notre ennemi. Le diable ne vous obligera pas à pécher. Satan a excité David, mais ce n'est pas le diable qui a fait pécher David. David a péché parce qu'il a cédé à la tentation. Or, le dénombrement n'était pas la responsabilité des rois d'Israël, c'était une responsabilité divine. C'est Dieu qui décidait à quel moment on devait dénombrer son peuple. C'était son peuple. C'était pour la gloire de Dieu et non pour la gloire du roi. Alors, quand David décide de faire quelque chose, comme pour Saül, bien sûr, il va faire un office qui ne lui revenait pas. Ce n'était pas à lui de dénombrer, parce qu'en réalité, quand David fait le dénombrement, qu'est-ce qu'il recherchait? La fierté, la gloire. Il voulait savoir, on est combien. Mais le rôle du dénombrement, ce n'était pas ça. Quand Dieu décide de dénombrer son peuple, c'est quand il prépare le peuple à la guerre. Et il sélectionne ceux qui sont réellement qualifiés pour le servir ou pour aller à la guerre. Voilà. Donc, le dénombrement, ce n'est pas juste le plaisir de l'homme de Dieu ou bien du roi. Je vais dénombrer pour savoir combien, quelles sont nos forces, nos ressources, comment nous sommes. Ça renforce l'orgueil. Et Dieu a dit non. Tu n'as pas dénombré. Quelle était la raison du dénombrement? Il n'y a pas de guerre, il n'y avait rien. Tu veux faire un dénombrement, pourquoi? Et David, il a fait le choix. Il a choisi de le faire. Et en choisissant de le faire, Dieu n'était pas avec lui, Dieu l'a frappé. Frères et sœurs, restons dans les limites que Dieu nous fixe. C'est important. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, je reviens à ce que je vous disais au départ, qu'on fait ce qu'on veut. Le chrétien ne fait pas ce qu'il veut. David était le roi, mais il ne pouvait pas faire le dénombrement. Saül était le roi, mais il ne pouvait pas porter le sacrifice. Ce n'était pas son travail. Donc, Dieu a fixé des limites restantes. Mais pour rester dans les limites, il faut les connaître, mais à travers sa parole. On n'invente pas la vie chrétienne, on ne la fabrique pas. Dieu a déjà tout orchestré, organisé. C'est comme pour Salomon et David. David a déjà préparé tout le matériel pour la construction du temple. Dieu a déjà tout préparé. Prenons les outils que Dieu a déjà mis à notre disposition. On n'invente rien. La vie chrétienne n'a pas commencé avec vous et moi. Il y a des gens qui ont commencé avant nous. Non, on fait que continuer un travail qui a commencé avant nous. On n'invente rien du tout, la vie chrétienne, là. Alors, quand on pense que Dieu l'a changé parce que nous sommes au 21e siècle, c'est qu'on se trompe. La forme a changé parce que nous sommes au 21e siècle. Hein. Mais le fond n'a pas changé. Dieu ne change pas dans ses principes. Hein. On n'est plus à l'époque romaine, mais nous sommes dans une époque de technologie, c'est vrai. Mais dans le fond, Dieu n'a pas changé dans ses principes. Principes de fidélité, d'intégrité, d'obéissance, de vérité, de justice, de sainteté, de sanctification. Ces principes-là, Dieu ne changera pas. Il ne va pas changer à cause de nous, il ne changera pas. C'est à nous de comprendre que même dans une société qui va tellement vite, comment intégrer ces valeurs-là? Parce que ces valeurs-là, elles s'intègrent, quelles que soient les sociétés. C'est vrai qu'il y a des sociétés à l'époque, ce qu'ils faisaient, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Mais il y a des valeurs qui s'adaptent à toutes les époques. La justice n'a pas besoin d'être au 3e siècle ou bien au 21e siècle. Il faut être juste. La vérité. Se sanctifier, ce n'est pas... Oh non, c'était à l'époque des apôtres. Quelles que soient les époques, on doit se sanctifier. Ce n'est pas que, comme on est au 21e siècle, la sanctification sera incompatible parce que la société... Non, non, non. Ces valeurs-là s'appliquent même aujourd'hui. Et même si on peut faire un tour en arrière, on repart au Moyen-Âge, on va appliquer la sanctification, ça va aussi s'appliquer, il n'y aura pas d'incompatibilité. Donc vous comprenez, frères et sœurs, que les choix que nous faisons, nous devons faire attention, est-ce que les choix que nous faisons cadrent avec la volonté de Dieu? Parce que si ça ne cadre pas, je vous assure, on va être seul dans la route, dans la marche. On va être seul. On va être seul. Et on va penser que Dieu, il est là, alors que Dieu n'est pas là. On sera seul. Mais pour que Dieu soit avec nous, il faut que nous restions dans les limites qu'il a fixées. On sera seul. Donc ce n'est pas de la rigolade. Hein. Quand vous lisez votre Bible, posez-vous les bonnes questions. Parce que ça s'applique à nous aujourd'hui. Quand je cesse de craindre Dieu, quand je fais ma volonté, ce qui m'arrange, sache que tout ce qui t'arrange n'arrange pas toujours Dieu. Dieu n'est pas manipulable. Ce n'est pas l'homme qui utilise Dieu. C'est Dieu qui nous utilise. Ce n'est pas à l'homme de faire des choses et de venir dire à Dieu, Seigneur, je l'ai fait, c'est pour ta gloire. Non. Tu aurais beau faire tout ce que tu as à faire, déployer tout ton zèle comme Marthe, au nom de la gloire de Dieu, là. Mais si ce n'est pas ce qu'il veut, ça ne sert à rien. Dieu ne se laisse pas flatter par les œuvres que nous faisons. Parce que les œuvres doivent être accompagnées de la foi. Or, la foi est directement liée à lui-même, à sa parole. Donc, vous ne pouvez pas parler des œuvres et comme ça. Non. Le Dieu que nous prions, il a dit effectivement que la foi sans les œuvres, elle est morte, mais les œuvres aussi ont besoin de la foi. Parce que la foi doit démontrer les œuvres. En réalité, les œuvres dont nous parlons, ce ne sont pas les bonnes œuvres de façon caritative, ce sont les œuvres de la foi. C'est-à-dire le côté pratique, démonstratif de la foi. C'est de ça dont on parle comme œuvre. On ne parle pas des œuvres que je vais faire donner au bon. Non. Parce que la foi nous donne un message, la foi nous donne un enseignement. Nous pratiquons la foi à travers des œuvres qui sont visibles, concrètes. Donc c'est important de le savoir, frères et sœurs. Mais pour ce matin, on va s'arrêter là. Mais pour que nous puissions réfléchir. Parce que nous voulons tous marcher avec Dieu. Mais je prie que ces choses que nous sommes en train de partager puissent davantage encore nous éclairer justement dans ce désir de marcher avec le Seigneur. C'est une bonne chose, mais il faut toujours veiller à rester dans le couloir. Rester dans le couloir. Je lisais l'apôtre Paul cette semaine qui parlait à Timothée et il parlait de trois choses à Timothée pour obtenir justement la couronne de justice. Il disait que à Timothée, premièrement, il dit que j'ai combattu le bon combat. Deuxièmement, il dit j'ai achevé la course. Mais comment tu vas achever la course? Pour achever la course, déjà, il faut connaître quelle course tu fais et dans quel couloir tu es. Et lui, il dit, il a achevé la course. Donc, il savait quelle était sa course et quel était son couloir. Et troisièmement, il a dit, j'ai gardé la foi. Il dit, maintenant, je peux obtenir la couronne de justice. Il dit, j'ai gardé la foi. Trois choses qui m'ont interpellé cette semaine. A combattu le bon combat, pas un combat qui n'était pas le bon. Ça veut donc dire qu'il y a des bons et il y a des mauvais combats. Lui dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc, frères et sœurs, que cela soit notre prière, notre soupir. Nous voulons achever la course, rester dans le couloir de Dieu. Mais il y a la tentation, hein. Vous savez, même dans les courses, il y a des règles. Hein. Celui qui court dans le couloir numéro 5, il ne va pas dans le couloir numéro 4. Hein. Sinon, il va être disqualifié. Hein. Quelle que soit la durée de la course, tu restes dans ton couloir. Hein. Donc, même la course est réglementée. À comme une plus forte raison de marcher avec Dieu. Donc, si nous comprenons ces choses-là, nous devons veiller vraiment sur nos voies. Pour la simple et bonne raison que nous sommes dans les temps qui sont les derniers et la porte devient de plus en plus étroite. Mais Jésus a dit, malheureusement, également à ce niveau, beaucoup ne l'ont pas trouvé. C'est quand même étonnant. Il dit, la porte large et spacieuse, la porte qui mène à la perdition. Il a parlé de la porte étroite. Hein. Mais là encore, il dit, combien ont trouvé cette porte étroite? faut payer le prix. Hein. La vie chrétienne. Il y en a qui sont dérangés quand on utilise cette expression, mais pourtant c'est vrai. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui sont en part. Ce n'est pas être passif, parce que nous avons un objectif. Et je crois que c'est à cause de l'objectif, en réalité, si quelquefois nous sortons des limites de Dieu, c'est aussi par un manque de vision de notre objectif final. Parce que si je sais ce qui me fait courir, je resterai dans la course. Et comme la vision, l'objectif final n'est pas clair, c'est pourquoi on joue. Mais si je sais, comme Paul, qu'il avait son objectif là, il a gardé la foi, il a combattu le bon combat, il est resté dans son couloir. Hein? Parce que ce qui nous fait courir, frère, c'est la vision. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a rien. Donc quand la vision de la vie chrétienne en Christ là, n'est pas claire, c'est normal qu'on fasse n'importe quoi. Mais quand vous savez que finalement ce n'est pas que le retour de Jésus qui devrait nous effrayer pour ceux qui ont peur, vous devez savoir également que la mort peut arriver à tout instant. Et si la mort arrivait maintenant là, dans quel état nous tiendrons-nous devant le Seigneur? Ce sont ces choses-là. Ce n'est pas du folklore. Nous sommes dans des choses qui sont sérieuses. Qu'est-ce qui nous maintient dans la foi? Il y a une vision. Peut-être que si on avait dans un autre contexte, je vous aurais donné des feuilles et un stylo pour écrire sur la vision de la vie chrétienne. On n'est pas nombreux, je peux le faire. Hein. Je leur donnais des VCA au Maroc, hein. Vérification des connaissances acquises, pour me rassurer si les gens comprenaient l'enseignement que je leur donnais. Donc je peux le faire aussi. Parce que si vous ne comprenez pas la vision de ce que nous sommes en tant que chrétiens, ça va justifier certains comportements. Parce que c'est en fonction, c'est comme la conduite, hein. On conduit avec les yeux. C'est ça la conduite. C'est ce que tu regardes qui va te conduire. Donc si tu regardes ailleurs, la voiture va aller ailleurs. C'est avec les yeux, la vision. Donc quand la vision n'est pas claire, n'est pas nette, ça va justifier certaines dérives, certains comportements, parce que la vision n'est pas claire. Et Dieu nous aide, on va s'incliner, on va prier le Seigneur. Le Seigneur nous aide pour cela. Notre Père, notre Dieu, encore une fois, nous réitérons notre besoin de toi pour te dire, Seigneur, aide-nous à demeurer dans les limites que tu as fixées pour nous, pour notre vie, selon ta parole. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir, Éternel notre Père, les dangers qui sont devant nous et qui assurément nous éloigneront de toi. Donne-nous le discernement afin que face à toutes les ruses et tentations de l'ennemi, que nous ne puissions pas céder à la tentation. Seigneur, préserve-nous de toutes sortes de mal et de toutes sortes de racines d'amertume dans nos cœurs, car c'est de ce même cœur que, Seigneur Dieu, tu as dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Éternel, notre Dieu, nous avons des faiblesses et nous ne pouvons te les cacher, car toi tu nous sondes, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Mais nous nous tournons vers toi ce matin, à toi qui as le pouvoir, à toi qui as la capacité d'affermir ce qui doit être affirmé dans nos vies, à toi qui es capable, Seigneur, de pouvoir répondre ta puissance dans nos faiblesses, comme l'a confessé ton serviteur Paul. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais comme nous t'avons prié tout à l'heure, nous voulons que ta parole demeure gravée dans nos cœurs, afin que nous puissions vivre par elle et marcher selon elle. Béni soit chacun ici présent, et béni encore le temps qui a été imparti, Seigneur Dieu, pour pouvoir vivre ce temps de communion et de rassemblement fraternel. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent à toi notre Père et à toi notre Dieu. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prier pour les uns les autres pour cette semaine qui va commencer. Nous allons nous recommander afin que le Seigneur nous garde, protège, nous préserve, que nous puissions traverser cette semaine avec le Seigneur dans la paix, dans la foi, dans l'espérance, dans l'encouragement. Tu as dit de prier les uns pour les autres. Nous voulons prier, Seigneur, ce matin pour notre frère, pour notre sœur qui est ici présent, pour la semaine qui va commencer. Je te demande, Père, de pouvoir encourager chacun, de pouvoir conduire chacun, de pouvoir diriger chacun et nous préserver du malin. Laisse que cette semaine soit une semaine d'espérance, une semaine d'attachement encore plus à toi, Seigneur.